28. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40, lui, est en repli de 0,33%. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'adversaire d'Alexandre le Grand, le dernier roi de Perse, Darius III.
Darius et Alexandre se regardaient d'un œil jaloux et semblaient nés pour se disputer l'empire du monde. Bossuet.
D'histoire. Comme tous les souverains de Perse, on l'appelait le grand roi. Successeur de Cyrus, de Cambyse, de Darius Ier et de Xerxès, Darius III fut le dernier représentant de la famille des Achéménides qui, pendant plus de deux siècles, ont gouverné un immense territoire qui allait de la Libye jusqu'au pied de l'Himalaya et de la mer Noire au golfe Persique. De leur capitale, Persépolis, les grands rois et leurs satrapes régnaient sur une mosaïque de peuples qui ont vécu sous leur autorité pendant plus de 200 ans, jusqu'en 334 avant notre ère. Cette année-là, en entrant en Asie à la tête de 35 000 hommes, un Macédonien de 20 ans allait faire voler en éclats le plus grand empire de la Terre, l'empire de Darius.
Soldats, vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses aucune armée, depuis que le monde est monde, n'a encore atteinte ou connue. Nous conquérons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé, si ce n'est le nom de votre roi.
Alexandre ! Alexandre ! Alexandre !
Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête.
Pierre Briand, bonjour.
Bonjour. Alors,
c'était l'extrait d'un péplum des années 50, le début de l'épopée d'Alexandre, qui en deux ans, on le sait, allait conquérir l'empire perse de Darius. Alors tout le monde connaît au moins le nom d'Alexandre le Grand. Presque personne, en revanche, ne connaît celui de son adversaire, Darius III. Et personne, d'ailleurs, avant vous, n'avait jusque-là écrit sur ce roi dont on ne parle, au fond, qu'à travers son vainqueur. D'ailleurs, même votre livre s'appelle Darius dans l'ombre d'Alexandre. Pierre Briand, comme si, au fond, Darius n'avait été qu'un figurant dans cette histoire.
Figurant est le nom, le mot, le terme qui convient, puisque et on n'en avons aucun document spécifique sur Darius, ni venant d'ailleurs des Achéménides, ni venant de Grèce ou de Rome. Les seuls renseignements que nous avons qu'à travers des échos très assourdis que nous présentent les historiens d'Alexandre d'Antiquité, qui ont écrit d'ailleurs plusieurs siècles après l'épopée d'Alexandre, à l'époque romaine, mais aucun ne s'intéresse directement à Darius, puisque tous sont concentrés sur la figure dite héroïque, ou alors une figure au contraire condamnable d'Alexandre, selon qu'on le juge positivement ou négativement.
Alors ce que l'on sait, Pierre Briand, c'est que, alors qu'Alexandre en 334 n'est jamais que le roi d'un petit pays, hein, la Macédoine et quelques villes grecques, Darius III, lui, il est à la tête d'un empire immense, hein, qui a été fondé deux siècles plus tôt par Cyrus, mais c'est gigantesque. L'empire perse, on l'oublie un petit peu, hein, je disais tout à l'heure, ça va au fond de...
Tout à fait, et même des histoires actuelles d'Alexandre oublient souvent de parler de l'adversaire, c'est-à-dire de l'empire achéménide, faisant comme si en fait c'était un adversaire négligeable, ce qui n'était pas le cas. Et l'empire de Darius, effectivement, qui a à peu près la même configuration que celui de Darius Ier, c'est-à-dire presque deux siècles auparavant, va effectivement de l'Indus à Méditerranée et de l'Asie centrale à la première cataracte d'Inde jusqu'à Assouan, et englobe ce qui serait maintenant à peu près une quinzaine de pays à l'heure actuelle, cadeaux de pays qui comprennent des cultures, des langues, des cultes, des histoires, des traditions extrêmement différentes l'une de l'autre, Mais le génie achéménide a été de les rassembler dans une entité unique sur le plan politique, de diviser l'Empire en grands gouvernements qui sont les provinces, les satrapes. Et à l'époque où Alexandre arrive, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'Empire perse n'est pas du tout un tigre de papier, ni un colosse huilé d'argile, pour reprendre l'expression qui a été créée dès le XVIIe siècle pour dénoncer et définir l'adversaire d'Alexandre. Donc c'est vraiment un adversaire digne de valeur et digne d'être combattu. Et la rapidité relative d'ailleurs du temps d'Alexandre ne doit pas faire conclure ou postuler justement qu'il n'a combattu que contre un ennemi invisible, il était bien là.
Et un adversaire dont vous le dites justement, Pierre Briand, les historiens n'ont parlé que bien après son règne. Écoutez donc les historiens de l'Antiquité sur Darius Ier, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, le pauvre Darius, hein, chaque fois que les auteurs anciens parlent de lui, il est éternellement celui qui a été vaincu par Alexandre. Alors sur Darius, Darius III, donc deux visions coexistent depuis l'Antiquité. Alors l'une le présente comme un grand roi, hein, beau, courageux, mais poursuivi par la mauvaise chance. Et l'autre vision, au contraire, le présente comme un roi faible, lâche, ramolli par le luxe et les femmes. Alors l'image positive d'abord. Voilà comment, par exemple, le voit le grec Diodore de Sicile. Si Darius fut jugé digne du trône, dit-il, c'est qu'il avait la réputation de surpasser tous les autres Perses en bravoure physique. Et face à l'armée d'Alexandre, Darius, dit-il, combattait en personne sur son char, lançant ses javelots vers les assaillants. Il est courageux donc, hein, et en plus, il a de l'allure. Darius, affirme Plutarque, surpassait tous les hommes en beauté et en prestance. Au milieu de son escadron royal, il se distinguait par sa beauté et sa haute taille, debout sur son char élevé. Alors c'est aussi ainsi, hein, superbe, que le décrit un Romain, Quinte Curse. Darius, du haut de son char, dominait tout, dit-il. Alors le seul problème de Darius, donc, c'est sa malchance qui le conduira à la mort. Je suis personnellement une preuve des vicissitudes de la fortune, déclare-t-il à ses proches. Alors cette image positive va perdurer, hein, pendant des siècles, au-delà du Moyen-Âge et de la Renaissance, et même Bossuet au XVIIe siècle dira « Darius était juste, vaillant, généreux, aimé de ses peuples et ne manquait ni d'esprit ni de vigueur ». Alors face à cela, l'image négative de Darius est ancienne. On la doit d'abord à un certain Arien, un historien grec, obnubilé par la grandeur d'Alexandre. Darius, dit-il, fut plus que personne, mou et peu avisé en ce qui concerne la guerre. Sa vie fut une succession de malheurs. Au combat, il se déshonora en prenant la fuite et causa la perte de son armée. Puis, banni de son propre empire et errant, il périt, victime de la trahison des siens. Alors dans le même esprit, le Romain Tite Live présente Darius comme le roi dépravé d'un royaume dépravé. Un roi, dit-il, traînant à sa suite une armée de femmes et d'eunuques, embarrassé dans sa pourpre et son or, paraissant bien plutôt une proie qu'un ennemi, et qu'Alexandre vainquit sans coup férir. Darius, donc, un vain épouvantail, dit-il. Alors cette image négative va perdurer aussi, avec parfois des Rolands un peu nauséabonds, hein, faisant de Darius un roi décadent, barbare, face au civilisé Alexandre. Par exemple, à la fin du XIXe, pour un historien allemand, un certain Neul de Queux, Darius n'est, dit-il, qu'un de ces despotes incapables, comme l'Orient en a si souvent produit.
Un commentaire sur ces textes, Pierre Briand, qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre qui est moins une biographie de Darius, au fond, que la façon dont l'image de Darius a évolué au cours des siècles.
Tout à fait. Faire une biographie de Darius eût été une tâche impossible et ridicule, puisque nous n'avons pas de documents qui le permettent. En revanche, expliquer comment les images de Darius seront situées depuis l'Antiquité, reprises, réélaborées à l'époque moderne et contemporaine, tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, apporte aussi, je pense, quelque chose de neuf sur l'histoire d'Alexandre lui-même et sur la manière dont a construit l'histoire d'Alexandre. Alors, ces textes que l'on vient de lire donnent l'impression d'abord que, puisqu'ils ont été rassemblés d'un coup, là, que les historiens anciens ont beaucoup parlé de Darius, mais en réalité, on vient de rassembler des notations éparses et qui ne donnent pas l'image réelle de l'historiographie ancienne. Ce n'est que par flash, par coup, que tout d'un coup, les historiens anciens parlent de Darius. Mais ce qui est vrai, c'est que dans l'Antiquité, il y avait déjà deux images qui sont d'ailleurs souvent confondues dans le même auteur. Il n'y a pas vraiment d'auteur qui défend une image plutôt qu'une autre. Mais disons qu'il y a quand même deux images différentes. L'une qui le présente comme au fond quelqu'un qui est au fond un type plutôt sympathique, plutôt capable, mais poursuivi par la poisse. Et l'autre au contraire qui en font dès le départ un type incapable.
Il fait aussi quelqu'un qui semblait en 334, quand Alexandre allait attaquer l'Empire perse, qui ne semblait pas, Darius ne semblait pas du tout impressionné justement par le jeune Alexandre.
Pour Alexandre, écrit. Le maître de toutes les nations d'Asie, c'est moi. Darius le Perse, le roi des rois, roi des pays où l'on parle toutes les langues, a fait rassembler dans les plaines de Babylone une armée telle que le monde n'en a jamais vue afin de lutter contre toi, Alexandre. Nous te prions donc d'obéir, retire-toi, retourne dans ton pays, dans le giron de ta mère Olympias. Je t'envoie un fouet, une balle et un sac d'or. Le fouet pour te dresser, la balle pour te permettre de jouer avec les enfants de ton âge et laisser les hommes s'occuper de leurs affaires. Le sac d'or pour tes dépenses, car on m'a dit que tu étais pauvre. Sache que j'ai plus d'or que l'or qui poudroie dans les rayons du soleil. Tu n'as donc aucun besoin de te rendre en Asie pour le voler.
Alors je sais pas si cet extrait de Péplum est fidèle à la réalité. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'au début, Darius n'a pas de raison de s'inquiéter au fond de la menace d'Alexandre. Il est à la tête d'une immense armée. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'Alexandre s'en prend à la Perse? C'est parce qu'elle est riche?
Oui, alors dans l'extrait qu'on vient d'entendre, lu par Richard Burton, je pense.
Oui, c'est moi,
sous-titré.
Oui,
sous-titré, en tout cas. L'auteur de scénario a mêlé des extraits des historiens anciens et d'un texte très intéressant qui est né au troisième siècle de notre ère Alexandrie, qui s'appelle le roman d'Alexandre. Mmh. Et l'histoire de la balle de tout ça, c'est dans le roman d'Alexandre. Mais peu importe. Pourquoi Alexandre se pose-t-il à la Perse? C'est d'abord que son père avait déjà pensé et que tous les plans étaient déjà... Philippe II avait déjà pensé, avait déjà mis au point, et que au fond l'opposition entre la Grèce et la Macédoine et la Perse était très ancienne et qu'il y avait eu plusieurs expéditions grecques contre la Perse, mais que Alexandre a sauté un saut psychologique en étant le premier à concevoir réellement l'idée d'une conquête de la Perse, de l'Empire achéménide. Et c'est le premier, certainement, dans l'Antiquité, à l'avoir eu. Même son père, probablement, n'avait jamais pensé à conquérir l'Empire de la Méditerranée jusqu'à l'Indus.
Quand vous parlez du contentieux, Pierre Briand, entre les Grecs et les Perses, il faut rappeler que toutes les villes de la côte ouest de l'actuelle Turquie, hein, Éphèse, Milet, etc., étaient des colonies grecques, mais qui faisaient partie de l'Empire perse. Et c'est une des raisons pour lesquelles Alexandre comptait les récupérer. Et d'ailleurs, c'est là qu'il remporte, dès qu'il débarque, sa première victoire, qui est la victoire du Granic, hein, contre une armée perse pourtant apparemment beaucoup plus forte. C'est la première victoire d'Alexandre.
C'est la première victoire d'Alexandre, et c'est là où beaucoup de choses se sont jouées, parce que face à lui, effectivement, l'armée des... C'est pas le grand roi n'est pas là, Darius n'est pas là, il a confié, comme c'est l'habitude d'ailleurs, la charge à ses satrapes d'Asie mineure, qui est commandée par le plus important d'entre eux, et l'armée perse est plus puissante, plus nombreuse. Pardon, quand même, d'Alexandre.
Il y a même des mercenaires grecs, hein, il faut rappeler.
Oui, oui,
cette armée, c'était même nom, c'était un grec qui se battait contre Alexandre.
Il y a des mercenaires grecs dans l'armée d'Alexandre, dans l'armée de Perse, comme il y en a dans l'armée d'Alexandre d'ailleurs, puisque le mercenaire grec est un trait récurrent de l'histoire des armées au IVe siècle en particulier. Quant à savoir, si vous me posez la question, vous ne l'avez pas posé, mais presque posé, de savoir pourquoi Alexandre a remporté la victoire là ou ailleurs, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre, parce qu'en réalité, les sources qu'on a sur les batailles sont extrêmement confuses, contradictoires, et à part d'être un spécialiste de Wargames, que je ne suis pas, je ne suis incapable de vous répondre. Et on n'a que des réponses, évidemment, qui sont toujours les mêmes dans les sources anciennes. Il a gagné parce qu'il était le plus héroïque, le plus puissant, celui qui avait les plus grandes qualités. Mais en réalité, personne ne sait pourquoi Alexandre a remporté la victoire.
Alors, la victoire dont vous parlez, c'est celle du Granic, c'est la première bataille, la première victoire d'Alexandre. Et puis, un an plus tard, donc, s'engage une deuxième bataille, beaucoup plus importante celle-là, c'est oui. La bataille décisive à Issos, c'est au nord, je crois, de la Syrie ou au sud oui. De la Turquie actuellement. Et cette bataille, Darius y participe lui-même d'ailleurs, voilà. Y prenant un risque considérable. Il n'était pas au Granic, mais il est à Issos, qui est une des plus grandes batailles de l'Antiquité.
Voilà, je ne sais pas si c'est la victoire décisive, parce qu'il y a une troisième après.
Gogamel,
c'est difficile de dire qu'il est la bataille décisive, mais ce qui est vrai, c'est que pour la première fois, Darius a réuni l'armée royale, c'est l'armée composé de tous les contingents de l'Empire, dont il prend la tête, bien sûr, il est conseillé par de nombreux généraux, et il s'embarque dans une stratégie qui apparemment, une tactique en tout cas, qui lui fut défavorable, ne sachant pas utiliser, apparemment, du moins d'après les sources anciennes, la sécurité de sa cavalerie, au lieu de choisir un espace plan et très vaste, il choisit au contraire de s'embarquer dans un espace resserré qui lui fait fatal. Toujours est-il que la conséquence, c'est que Darius peut s'enfuir et il laisse pratiquement ouverte la route vers la Phénicie.
Aujourd'hui, c'est la bataille finale. Aujourd'hui, la Grèce sera vengée et l'Asie entière nous appartiendra. Ses richesses seront entre nos mains et nos épreuves seront terminées. L'ennemi nous est supérieur en tout, mais l'armée macédonienne est telle que même si moi, Alexandre, je devais tomber en combattant, vous n'auriez perdu qu'un seul homme. Et l'armée perse est telle que si sa tête était tranchée, le reste du corps périrait avec elle. Par conséquent, Macédoniens, quand nous chargerons, n'ayez qu'une seule pensée. Tuer Darius. Tuer Darius.
C'est Alexandre à la bataille d'Issos. C'est vrai qu'au fond, l'empire achéménide ne reposant que sur les épaules d'un seul homme, la mort de Darius qui s'est enfui, vous l'avez dit, la mort de Darius aurait tout changé.
La mort de Darius aurait récemment tout changé, d'autant que, en l'occurrence, le successeur possible avait 5 ans. C'est le jeune fils de Darius, qui est d'ailleurs avec Darius à Issos, qui est capturé après la bataille. Et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Perses avaient pris toutes les mesures, traditionnellement, pour protéger du roi, et que le roi n'était pas mis en première ligne, mais qu'il était un peu l'arrière. Et dès qu'il y avait un danger qui se précisait, et que sa vie pouvait être en danger, ou que même il pouvait être capturé, aussitôt on avait pris les mesures de manière à le faire revenir en arrière, et à éviter justement la situation que vous venez d'évoquer.
Bataille très célèbre d'ailleurs, parce qu'on la retrouve dans tous les livres d'histoire, étant donné que c'est, je crois, un des seuls portraits connus de Darius, et même un des rares d'Alexandre, c'est la fameuse mosaïque de Naples, où on voit la tête d'Alexandre face à Darius. Il a peur, d'ailleurs, ces deux portraits figurent sur la couverture de votre livre, Pierre Briand. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'immédiatement après Issos, bon, Alexandre, petit à petit, d'abord se dirige vers l'Égypte, il va conquérir l'Égypte, qui est une satrapie de l'Empire perse. Le satrape d'Égypte se rend devant Alexandre, et on a l'impression que les uns après les autres, tous ces satrapes de Darius III, tous les satrapes l'abandonnent.
Oui, mais ça, il n'y a pas eu de débâcle extrêmement rapide. Après la bataille du Granic, les satrapes sont restés grosso modo fidèles à Darius, et même après Issos, Darius a nommé un nouveau satrape en Égypte, puisque le satrape d'Égypte a été vaincu et tué à Issos, et ce n'est vraiment qu'après la bataille de Gaugamel que les satrapes perses, que les Perses vont se rendre en masse. Et après Issos, la fidélité à Darius reste relativement importante, en tout cas évidemment dans les pays qui n'ont pas été conquis par Alexandre, ça va de soi. Le plus grave pour Darius, vraiment, c'est de voir qu'au fur et à mesure de la conquête, Alexandre s'empare non seulement des territoires, mais qu'il s'empare aussi des élites des pays locaux, à savoir que les élites des pays locaux viennent de voir, disant on est d'accord pour se rendre, tout nous donne les mêmes avantages qu'on a vécu sous Darius, et Alexandre accepte, et donc reprend à son avantage les méthodes du gouvernement des Perses.
Il n'y a pas de sentiment national, d'ailleurs le terme n'existe pas, et il y a des quantités de peuples qui vivent dans cet empire. Cela dit, vous l'avez dit, Pierre Briand, si ça marche, si les satrapes au fond se rendent devant Alexandre, alors que Darius est en fuite, hein, il continue d'essayer de mobiliser des soldats, c'est aussi parce que Alexandre est assez habile pour maintenir ou pour proposer de maintenir toute l'administration de Darius, toute l'administration royale, et aussi, c'est très important, il respecte la culture et les religions des peuples de Perse. De l'Empire perse.
C'est-à-dire qu'il fait exactement ce qu'ont fait les Perses depuis Cyrus, c'est-à-dire qu'il a devant lui un empire multiethnique, multiculturel. Il n'a pas 50 solutions. L'autre solution alternative auquel peut-être des Jacobins aujourd'hui pourraient penser, mais qui ne s'est jamais présenté à l'esprit d'Alexandre, c'est d'unifier, de centraliser. C'est absurde. Donc il a repris les méthodes de gouvernement en faisant en sorte que les cultures locales, les traditions locales soient respectées comme elles étaient du temps des grands rois. Il ne fait rien d'autre que ce qu'ont fait les grands rois.
Et il continue de se battre, Alexandre, donc, contre Darius, dernière bataille, Gaugamel, qui est au nord de l'Irak, je crois,
actuellement,
c'est en 331. Voilà. Et alors, il entre à Babylone, il respecte aussi les villes accueillantes, sauf Persépolis. Vous dites qu'il a fait incendier Persépolis, pourquoi?
On se pose des questions. Donc après la bataille de Gaugamel, il s'empare suffisamment de Babylone et de Suse, qui étaient deux des grandes résidences royales. Puis il arrive à Persépolis, et là il va rester pendant plusieurs mois en Perse. À ce moment-là, Darius est en Médie, au nord de l'Iran actuel, au nord de Hamadan, et préparant une nouvelle armée. Et Alexandre ne sait pas trop quoi faire, on va dire. Et apparemment, d'après ce qu'on croit comprendre, les Perses ne sont pas ralliés en masse à Alexandre. Et il semble que, au fond, il y a deux hypothèses possibles qui ne sont pas d'ailleurs contradictoires l'une de l'autre. Alexandre a voulu faire un geste à destination des Grecs, démontrant qu'il avait bien rempli la mission qui était la sienne officiellement, celle de venger les destructions opérées par les assassins en Grèce, mais aussi il a voulu faire un geste à l'égard des Perses, en disant maintenant c'est fini, on ne joue plus, si vous ne l'auriez pas à moi, je détruis. Donc, il n'a pas détruit Persépolis, il y a eu des destructions localisées sur la terrasse de Persépolis, ça n'a pas été une destruction complète, mais c'était un geste pour montrer que, ça met un geste contradictoire, car en même temps, il affaiblissait sa position qui était de dire ralliez-vous à moi, je ne ferai rien d'autre que ce que faisaient les grands rois. Alors là, il a été obligé par la contrainte de la situation de faire un virage, et il a su faire un autre virage pour reprendre la politique qui avait défini.
Pendant ce temps-là, Pierre Briand, que faisait Darius?
Darius continuait en fuite, oui, disons que, ou alors il s'était replié sur des positions préparées à l'avance, comme on dit. Il est avec Batin, donc dans la dernière des quatrièmes des grandes résidences royales, il prépare une armée en comptant sur les ressources de l'Asie centrale, la Bactriane en particulier, et c'est là que, au fur et à mesure de l'annonce de la chute de Babylone, de la chute de Suse, de Persépolis, évidemment, la désunion se met dans le camp, et comme toujours dans ces cas-là, eh bien, vous avez un complot qui se noue contre Darius. Et précisément, c'est le satrape de Bactriane qui est à l'instigation de ce complot et qui aboutit aux blessures de Darius pendant que les conjurés s'enfuient vers l'Est espérant recréer un nouveau front en Asie centrale.
La blessure, il est assassiné.
Oui, enfin disons qu'il est assassiné, il meurt quelques temps après le départ des conjurés, et c'est là que se situe une scène qui est probablement une scène fictive, puisque en fait, il est clair que lorsqu'Alexandre arrive, Darius est mort, mais une autre tradition, qui a été reprise ultérieurement par la tradition persane d'ailleurs, voulait qu'Alexandre arrivât juste au moment où Darius prononça ses derniers mots, où il lui confiait la tâche de le venger.
Mon fils, Alexandre. Contemple à présent ce que je fus et ce que je suis, seul, sans personne auprès de moi pour me fermer les yeux. Que les Macédoniens et les Perses prennent le deuil pour moi. Prends ma fille Roxane pour épouse, afin que le sang de Darius et de Philippe se mélange en elle, et que nos deux mondes ne fassent plus qu'un. Que nos deux mondes ne fassent plus qu'un. Entre tes mains, je remets mon esprit.
Certains historiens ont dit que, justement, comme on vient de l'entendre dans cette lettre imaginée pour ce film, que Darius, à la fin, admirait beaucoup Alexandre, et inversement, d'ailleurs, qu'Alexandre avait de l'admiration pour Darius, il lui a célébré, il y a eu des honneurs funèbres qui ont été rendus par Alexandre, et Alexandre a châtié, d'ailleurs, les assassins de Darius. Pierre Briand.
Oui, il faut faire attention parce que l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est un extrait en fait du roman d'Alexandre.
Oui, toujours, oui.
Qui a été
mais
pris.
C'est un bon péplum, hein.
Oui.
C'est vrai que comme on ne sait pas grand-chose de l'histoire de Darius,
voilà.
Les réalisateurs se sont inspirés de ce qui avait été écrit sur lui.
Oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est une scène qui a été imaginée du côté macédonien pour mettre en scène, au fond, une thèse qui était que Alexandre a succédé dans l'harmonie à Darius et qu'il a été, en fait, le successeur désigné par Darius lui-même sur son lit de mort, de façon à, dit-il, unir l'Asie, l'Orient et l'Occident par le mariage avec Roxane. Mariage avec Roxane qui n'eut jamais lieu, mais qui a été inventé pour le besoin de la cause par l'auteur du roman d'Alexandre, même si ultérieurement, effectivement, Alexandre a épousé des princesses iraniennes et même une fille de Darius, effectivement, à la fin de sa vie.
Tous les aristocrates macédoniens ont épousé, je crois qu'il y a eu 10 000 mariages qui ont été faits justement pour que se mêle, comme voilà. On l'entendait, le sang de Darius et celui d'Alexandre, les Grecs et les Perses.
Oui, tout à fait.
Et au fond, d'une certaine manière, Darius est mort, mais l'Empire, au fond, ne fait que changer de main. Il passe entre les mains d'Alexandre et plus tard, d'un de ses généraux, qui va donner la dynastie séleucide.
Tout à fait. Et Alexandre, la politique d'Alexandre, en particulier à la fin de sa vie, plus encore à la fin de sa vie, c'était de mener ce petit rapprochement entre les élites gréco-macédoniennes et les élites iraniennes, et de promouvoir ces mariages, intermariages fasteusement célébrés à Suse en 325. Parce qu'Alexandre avait compris une chose, c'est qu'il ne pourrait jamais administrer un empire aussi immense avec les seuls macédoniens, et qu'il fallait le secours de ceux qui constituaient la colonne vertébrale de l'Empire achéménide, c'est-à-dire l'aristocratie iranienne et perse.
Cela dit, l'empire d'Alexandre était beaucoup plus éphémère au fond que celui des Achéménides, hein, dont le dernier représenté était Darius. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, Pierre Briand, vous le mentionnez à la fin de votre livre, qu'est-ce qui reste dans la mémoire des Iraniens, c'est-à-dire le berceau de l'empire perse, de cet empereur, de Darius, enfin de ce grand roi, dans un pays qui aujourd'hui est musulman, mais l'islam n'est arrivé que plusieurs siècles, 10 siècles à peu près après Darius.
Oui, c'est un empire musulman, mais c'est un pays musulman.
C'est pas
non, mais c'est un pays iranien et perse. C'est-à-dire qu'on continue à parler la langue des anciens perses, même si c'est le persan moderne. Les persans d'aujourd'hui ont l'image de l'histoire à travers ce qu'on a pu toujours appeler en Iran le livre des rois. La succession des empires, la succession des rois, et l'opposition entre Darius, Dara et Alexandre n'est qu'un chapitre parmi d'autres, et où est présenté justement un Darius dont l'image est peu favorablement présentée, parce qu'au fond c'est un mauvais roi.
Le Shah d'Iran voulait quand même, en restaurant Persépolis, restaurer la grandeur de l'Empire perse.
Certes, il pensait à Cyrus, certainement pas à Darius III. Et donc Darius III n'est pas un bon roi, mais la fin de l'histoire est celle qu'on a dite dans le roman d'Alexandre aussi. Et c'est Alexandre arrive alors que Darius n'est pas mort, et Darius le prend dans ses bras et lui confie l'empire, et lui confie sa fille à marier, et lui confie au fond la destinée de l'Iran.
Merci Pierre Briand de nous avoir rappelé donc ce personnage un peu oublié que l'on retrouve dans votre livre, qui n'est pas à proprement parler, je le répète, une biographie, mais au fond la façon dont les historiens ont traité le personnage de Darius III. Donc ce livre s'appelle Darius dans l'ombre d'Alexandre, un livre publié chez Fayard. Vous êtes également l'auteur d'une histoire de l'Empire perse, publiée également chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du très bon film de Robert Rossen, Alexandre le Grand, distribué en cassette par Warner Home Video, et un film d'ailleurs que la chaîne de télévision TMC diffusera ce soir à 20h50. Enfin, samedi 20 septembre à 12h35, France 5 diffuse aussi un documentaire de Serge Tignerès dans lequel notre invité, Pierre Briand, parle d'Alexandre et de Darius. Donc le 20 septembre à 12h35 sur France 5. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Edwin Caron et Dimitri Granov, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Deux mots encore sur les nombreuses réactions provoquées par l'émission d'hier sur Fidel Castro, et parmi elles, celle de quelques auditeurs qui nous ont reproché d'avoir noirci le portrait de Castro. Alors, nous n'avons fait que rappeler des réalités, j'en suis désolé pour les auditeurs qui ont été déçus, mais on ne peut pas à la fois s'indigner, par exemple, des violations des droits de l'homme dans le Chili de Pinochet, comme nous l'avons d'ailleurs fait la semaine dernière, et puis fermer les yeux sur ces mêmes violations des droits de l'homme quand elles se produisent à Cuba. Demain, dans notre émission, à la veille des journées du patrimoine consacrées cette année au patrimoine spirituel...